Radio G 101.5 FM.
Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when
bienvenue à toutes et à tous, il est 20h05, tout pile, pile poil, prise d'antenne presque à l'heure, avec 5 minutes de retard, mais 1,05 très précis. Et ça, c'est beau. Vous êtes à l'écoute de Génération Sport. Aujourd'hui, comme dans toutes les émissions, on va parler de tout un tas de choses, actu locale, actu internationale. C'est encore une fois très, très dense ce soir. Donc, après une semaine de vacances bien chargée pour nous, on revient et pour m'accompagner durant cette émission ce soir, deux chroniqueurs, puisque Faustin, d'ailleurs, vous avez remarqué, mais je ne suis pas Faustin, est en Chine. Donc voilà, il se fait plaisir finalement des petites vacances d'université avec moi. Donc j'ai à ma droite Paul ce soir. Comment tu vas, Paul?
Ça va très bien, et toi?
Bah écoute, super. c'est pas commun qu'on me pose la question quand j'anime. Mais ça va super bien. Écoute, Lyon a gagné ce week-end, donc voilà, tout va bien. On va
3e de Ligue 1, je pense que tu peux être le plus heureux du monde actuellement, je pense.
Eh bah, ben oui, carrément. On va voir le match contre le Stade Rennais sera si je passe un bon été ou pas. Mais non, c'est très très cool. Je suis très ravi. Un homme, j'imagine, est ravi aussi à ma gauche. Comment tu vas, Robin?
Bah écoute, ça va bien. En plein stress ce soir pour le match qui arrive. Mon côté parisien est évidemment un petit peu stressé pour ce match que j'attends forcément avec grande impatience. Donc voilà, je pense qu'on va avoir du beau spectacle ce soir et voilà.
Et content pour Arthur Fils.
Évidemment Arthur Fils qui enchaîne les bonnes performances. Donc hâte de voir ce que ça va donner sur la suite du tournoi et puis sur Roland surtout.
On verra ça avant ça, et puis on va en parler évidemment hein, tout à l'heure de ce Masters 1000 de Madrid, et puis peut-être revenir un peu si on a le temps aussi sur Barcelone forcément. Mais avant ça, on va parler des actualités locales, et puis pour commencer donc ce tour d'actualité sportive dans le Maine-et-Loire, comment ne pas parler de l'exploit de cette semaine, de cette année et de l'histoire pour un club en particulier. Dirigeons-nous vers le basket et les joueuses de l'Ambroisière victorieuses à Bercy du Trophée Coupe de France. Opposé à Saint-Delphin, le club qui, il faut le rappeler, a été créé il y a seulement 8 ans, a su se défaire donc de son adversaire du jour environ à la moitié du match pour finalement s'imposer dans un fauteuil qu'il est toujours difficile de garder sur le score de 78-65. Un exploit XXL que le club n'est évidemment pas prêt d'oublier, marquant donc cette soirée du 24 avril 2026 au Fer Rouge dans son histoire. Autre finale en Coupe de France, celle des U18 de l'UFAB qui n'ont rien pu faire samedi face à Charleville sur le score de 68-47. Douche froide à Bercy, mais parcours impressionnant, gage de qualité pour l'avenir d'une équipe senior qui va tenter de sauver sa peau en première division. 5 matchs restants pour elle et le premier c'est demain soir face à Roche-Vendée. Basket, du côté du basket masculin, l'EAB a failli venir à bout de Saint-Chamond-André, 4e de cette poule B de National 1. Malgré une belle rencontre, ce sont finalement les locaux qui s'imposent sur une très petite marge de 80-77. L'EAB est 9e, petit crochet par le rugby désormais avec le SCO qui jouait son 32e de finale aller de Fédéral 3 face à Boulogne-Billancourt. Et malgré une première mi-temps dominée qui s'est terminée donc en menant au score 22-10, les Angevins se sont finalement inclinés 27-22 en région parisienne, de quoi compliquer l'opération 16e de finale qui donnera un match de tous les possibles à la Baumette. On ne parle pas souvent du tennis local, mais il y a de quoi aujourd'hui avec un petit événement cette semaine, l'Open L'Adresse Immobilier qui a réuni tout au long de la semaine des noms prometteurs du tennis mondial. Dimanche avait lieu la finale du simple masculin, une rencontre 100% espagnole qui a vu Iñaki Montes de la Torre devenir le 3e espagnol à remporter le tournoi, battant en 2-7, 6-2, 6-4 son compatriote Oriol Roca Batalla dans un match quasi à sens unique. Victoire de la tête de série numéro 5, 369e mondial au classement ATP face à la tête de série numéro 6, 379e mondial. À noter que pour la première fois depuis la création du tournoi en 2000, aucun joueur français n'a su rallier le dernier carré de l'Open d'Angers. Et ce, malgré la présence d'un nom que vous connaissez peut-être, Geoffroy Blancarneau, éliminé en quart de finale, qui avait battu l'actuel numéro 5 mondial Félix Auger-Aliassime en 2016, remportant ainsi le tournoi junior de Roland Garros. Handball, le SCO s'est incliné vendredi face au 5e de Pro League, Ponto Combo HB sur le score de 37-32. Une fin de saison durant laquelle les joueurs angevins marchent sur des œufs qui tentent sans réussir de sortir du désagréable confort qu'offre la dernière place du classement. Petit crochet sur les Ducs maintenant qui, pendant que l'équipe de France s'imposait 5-2 face à l'Italie à l'Ice Park, ont annoncé deux départs importants, deux joueurs majeurs qui filent chez la concurrence. Il s'agit donc de Nicolas Ritz qui va à Rouen et de Théo Sarliev qui plie bagage donc à Grenoble. 6 ans à Angers pour les deux joueurs qui vont continuer d'écrire leur histoire en haut de la Ligue Magnus, mais pas en Anjou. À noter que le lendemain, la France jouait à nouveau contre l'Italie et rebelote à l'Ice Park. Victoire des Bleus 4-2 cette fois-ci. Les Bleus qui semblent prêts pour le championnat du monde de division 1A qui se dérouleront donc du, enfin qui se déroulera du 2 au 8 mai prochain à Sisnowiec en Pologne. On reste sur du hockey sur glace avec l'autre exploit de la semaine, la victoire des Dogs de Cholet en finale de play-off de première division face au Drakkar de Caen. Le tout dans un match 5 serré durant lequel les Choletais ont mené, mais le temps réglementaire n'a pas su départager les deux équipes. Place aux prolongations que les Dogs ont su prendre à leur compte pour finalement inscrire un troisième but à la 66e minute, synonyme de victoire. Cholet est champion de France de première division pour la toute première fois de son histoire. Maintenant, terminons par le football. C'est Saumur qui a ouvert le bal samedi, victoire presque impérative face à la réserve de Lorient qui se trouvait donc à un seul point des Saumurois et à quelques longueurs de la zone de relégation. Score final de partout, personne ne fait la bonne opération. Prochain rendez-vous face à Dinan Léon, actuel 8e de cette poule de National 2. Pour rappel, les Saumurois, eux, sont 12e. Et puis pour finir, donc comme à chaque fois, on va maintenant parler du SCO. Battu 3-0 à domicile par un PSG assez facile, et ce, malgré la présence pourtant incertaine d'Hervé Kofi dans les cages. Est-ce qu'on a regardé le match du côté de l'équipe de Génération Sport? Paul, je te vois qui hoche la tête. T'en as pensé quoi de cette prestation du SCO?
J'ai regardé un peu le match, j'ai regardé un peu le début en première mi-temps. Du coup, une prestation un peu compliquée, on va dire, quand même, dans l'ensemble, où les joueurs n'ont pas été à la hauteur, on va dire, du match qui était attendu, malgré le fait qu'on n'a pas trop été aidé par l'arbitrage sur ce hors-jeu de Peters qui est un peu inexistant, même un penalty sur ce bail qui n'a pas été sifflé. Donc ça n'a pas trop aidé, et puis bon, les joueurs n'ont pas été non plus au niveau, et puis bon, beaucoup de blessés qui n'aident pas, je pense, cette fin de saison sur des matchs comme ça.
C'est un match de gala aussi, on avait quand même des joueurs qu'on aime revoir, notamment Pierre Capel, encore Abdoulaye Bamba, qui était titulaire en profitant de blessures, hein, tout simplement, c'était pas un choix de turnover volontaire, fin de saison, voilà, on fait jouer les anciens, non, c'était purement sur le coup des blessures. Ça t'a fait plaisir de les revoir, Robin?
Ouais, carrément, comme a dit Paul, moi je me suis plutôt focalisé notamment aussi sur la première période, j'ai pas pu trop voir la deuxième, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir, voilà, de voir des légendes du club pouvoir discuter un match, avoir une titularisation de temps en temps, surtout face au PSG, voilà, c'est toujours gratifiant pour eux, je pense, donc c'est cool. Comme l'a dit Paul, c'était un match plutôt compliqué pour les Angevins. Je suis aussi déçu et j'ai pas trop compris le but refusé face qu'il y avait, je crois. Il y avait un but refusé pareil ou face au Stade Rennais ou qui avait été accordé, il y avait quelque chose comme ça, il y a une situation litigieuse aussi dans ce sens-là qui avait pas été dans le sens du SCO, et ça fait deux fois d'affilée, donc c'est un peu triste pour les Angevins, mais bon, on sait que voilà, c'est une fin de saison où il y a plus grand chose à jouer non plus, donc c'était plutôt pour mettre en avant les légendes, on va dire, et le reste profiter.
Un but avec un super centre de Lilian Araújo, vraiment magnifique,
vraiment très beau centre.
Donc c'est vrai que c'est assez dommage à ce niveau-là. On a quand même une longue disette pour le SCO face au Paris Saint-Germain. Pas en termes de victoire, parce que face au PSG de l'Air Qatari, je pense que le SCO ne vise pas du tout la victoire, pas du tout les trois points. Mais la dernière fois que le SCO n'a pas perdu, si ma mémoire est bonne, c'était en 2015.
C'est la saison de la montée.
C'est
en
2015,
ils font un partout, je crois.
0-0.
0-0.
Avec un butel absolument
énorme.
Énormissime. Donc c'est pareil, ça. Alors après, on peut pas forcément s'attendre à quelque chose de la part du SCO face au Paris Saint-Germain, mais en même temps, une fois de temps en temps, voilà, on a vu des équipes réussir à battre Paris. Je me rappelle, c'était Guingamp même qui avait éliminé le Paris Saint-Germain en 2017, ou peut-être un peu plus
2018
récent.
Ou 2019 en Coupe de la Ligue, ouais.
C'est ça, donc forcément, on a des équipes qui y arrivent, le SCO n'y arrive pas. Bon, c'est dommage. Surtout devant son public, mais bon, le SCO peut se rassurer en disant que voilà, le maintien est, on le répète depuis des semaines, mais dans tous les cas, acquis. Il faudrait un scénario complètement irrationnel. Faudrait que, alors on en parlait en off, mais il faudrait globalement donc que Auxerre gagne ses trois matchs, puisqu'il y a 9 points d'écart entre le SCO et Auxerre. Faudrait que dans le même temps, Nice, qui je crois de mémoire est à 4 points du SCO, donc gagne 2 matchs, ou fasse donc une victoire, un match nul, avec une meilleure différence de but que le SCO. Bon, ça paraît un petit peu gros quand même. Est-ce que pour vous, le SCO est maintenu
Comme on le dit depuis quand même maintenant un mois et demi quasiment, depuis la victoire contre Nantes, c'est quasiment acté. Je pense que là, les joueurs l'ont compris. Malheureusement, il y a beaucoup de blessures, comme on l'a dit. Donc, je pense que c'est profitable, on va dire, d'avoir beaucoup de points d'avance sur des équipes comme Auxerre, contre Nice ou encore Nantes, même si bon, Nantes, c'est quasiment fini. Mais au moins, tu vois, d'avoir une fin de saison un peu plus tranquille que l'année dernière où tu l'as acquis au dernier match, je crois, l'avant-dernier match contre Strasbourg, je crois, je crois que c'est l'avant-dernier match où tu t'acquis ton maintien, donc là je pense c'est plus tranquille pour le staff et les joueurs.
Heureusement qu'il y avait quelques points d'avance quand même cette saison, parce que sinon ouais. Là, vu l'enchaînement des matchs avec l'enchaînement des défaites, ça aurait été compliqué.
Après, on a connu un peu la même chose l'année dernière, parce que dans la période de janvier, on a eu justement ce côté un peu euphorique, on avait plein de points, etc. On découvrait des joueurs, le Paul, je m'en souviens, il y a même Ibrahim Agnan qui marchait un peu. Voilà, ça fonctionnait un peu, il marquait des fois. Donc du coup c'était très cool, et puis au final effectivement à deux journées de la fin on se maintient. Après là théoriquement à trois journées de la fin on va se maintenir. Si jamais il y a nul ou même victoire face à Auxerre, faut quand même le jouer à fond ce match.
Oui, bien sûr.
Comme d'hab. Parce que Auxerre reste un candidat au maintien, donc voilà, c'est sûr que c'est important d'aller chercher au moins un point là-bas.
Tout n'est pas perdu pour les Auxerrois. On va analyser ça, puisque maintenant on va passer à l'analyse de la 31e journée de Ligue 1. Puisque vendredi donc a eu lieu un match assez spectaculaire entre Brest et Lens, un nul 3 partout qui s'est dévoilé à la dernière minute avec ce but d'Alan Saint-Maximin. Et alors que les Brestois menaient 3-0, Lens continue de perdre des points et voit la course au titre déjà mal embarquée s'éloigner presque définitivement. Samedi, c'est l'OL qui a réalisé une bonne opération sur sa pelouse avec cette victoire 3-2 face à Auxerre grâce aux entrants et notamment à Corentin Tolisso, auteur d'un but et d'une passe décisive. Plus tard dans la journée, on l'a évoqué, donc le PSG est venu à bout du score, 3-0, et dans la soirée, Toulouse et Monaco se sont partagés les points du nul de partout. Dimanche, Strasbourg a battu Lorient 3-2 en Bretagne, mais le match de la journée était peut-être celui aux allures les plus anecdotiques. Le Havre-Metz, 4 buts partout et un nul qui enterre presque définitivement les Grenats, qui filent tout droit vers la Ligue 2. Plus tard dans la journée, le Paris FC s'est incliné sur sa pelouse face à Lille, 1-0. Rennes a battu dans les toutes dernières minutes Nantes. Coup du sort, c'est un ancien Nantais, l'ancien capitaine même du FC Nantes, Valentin Rongier, qui d'une belle frappe pousse encore un peu plus les Canaries. En Ligue 2, le match de clôture a vu quant à lui Marseille et Nice se quitter sur le score de 1 but partout, avec notamment une très belle panenka d'Eli Wahi contre ses anciens partenaires. On va reparler de ce match et surtout de la dynamique phocéenne dans peu de temps. Avant ça, focus donc sur le classement, avec des écarts qui se creusent, premièrement entre Paris et Lens. 6 points séparent désormais le leader de son dauphin, qui se rencontreront le 13 mai prochain. Dans la course aux places européennes, les mauvaises opérations sont donc marseillaises et monégasque, respectivement 6e et 7e. 2 points séparent les deux équipes et l'écart entre l'OM et la Ligue des Champions continue de se creuser, puisque Lyonnais et Lillois sont tous les deux à 4 longueurs d'avance. Entre ces deux blocs, on retrouve le Stade Rennais en embuscade. Et puis tout en bas, c'est presque officiellement infini pour Metz, qui devrait aller chercher 9 points lors des 3 prochaines journées, en espérant qu'Auxerre ne remporte aucun de ses matchs, tout en réglant une différence de 24 buts avec les pensionnaires de la Baie des Champs. Bon, c'est mission impossible en gros. Nantes est à 5 points de la place de barragiste, de laquelle Nice continue de s'éloigner avec 5 points d'avance désormais. Et lors de la prochaine journée, pas de réelle grosse affiche, si ce n'est donc un Lyon-Rennes décisif en clôture. Des matchs en jeu toutefois, notamment pour Nantes et Marseille en ouverture. Et venons-en à Marseille avec toi, Paul. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué.
L'OM est encore une fois dans une tempête. Après cette survenue au mois de février avec les départs de Desherby et de Longoria, celle-ci risque de coucher un peu plus les espoirs de LDC, voire même d'Europe pour les Marseillais. Alors qu'Abibé est arrivé sur la canebière pour permettre aux Marseillais de se qualifier en Ligue des Champions et de remporter la Coupe de France, 2 mois plus tard, je fais le constat simple et efficace que l'ancien coach du Red Star et du Stade Rennais n'était pas l'homme de la situation. Marseille est aujourd'hui 16e avec 4 points de retard sur Lille, premier qualifié sur la Ligue des Champions. Et en Coupe de France, les Marseillais se sont encore une fois inclinés à domicile face à Toulouse en quart de finale. Les joueurs n'ont plus d'envie, on l'a pu remarquer par exemple avec Abdelli lors de la fin de match contre Nice, qui perd un ballon et qui ne s'arrache pas pour le reprendre. Benatia qui vient en conférence de presse pour désinguer les joueurs. Et surtout les nombreux stages et mises au vert qui sont inutiles vu les matchs que les joueurs nous proposent. Alors messieurs, je me pose la question, jusqu'à quand l'Olympique de Marseille va continuer de faire honte à ses supporters et à notre championnat ?
C'est lourd. C'est très très lourd comme constat. Bah, effectivement, c'est une fin de saison très très compliquée pour l'OM. Là, j'ai ça sous les yeux, il reste 3 matchs plutôt faciles. Nantes, Le Havre et Rennes en clôture. Qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des Marseillais en termes de position au classement, vu la dynamique actuelle qui est quand même très mauvaise ?
Bah moi je vois voilà, forcément il va falloir faire le travail contre les petites équipes, ce qui va pas être facile, petites équipes entre guillemets évidemment, mais équipes qui sont pas du standing de l'OM, équipes qui jouent pas pour le Havre qui joue forcément le ventre mou, mais Nantes qui joue encore le maintien, puis après il y a ce dernier match face à Rennes qui est en très très bonne bourre contrairement à Marseille qui va également jouer les places notamment pour la Ligue des Champions. Donc ouais, moi je pense que là franchement l'OM est dans une dynamique très très compliquée. Ben quand on avait fait un petit peu nos pronos de l'Europe etc, j'avais pas mis Marseille dans le top 3. Moi, je voyais pas trop l'OM faire podium. Et là, ça se confirme vraiment qu'il y a de grandes difficultés. Je pense pas forcément que c'est la faute du coach. Je pense pas forcément qu'il y a vraiment un coach qui pourrait être désigné pour changer la tendance. C'est vraiment général, que ça soit dans la direction, que ça soit la mentalité des joueurs, peut-être aussi le niveau des joueurs qui est pas bon. Voilà, c'est un petit peu un tout. C'est pas forcément l'entraîneur qui va venir stabiliser toute cette situation, pour moi. Donc faut tout revoir à l'OM. On le dit, j'ai l'impression, un petit peu tous les 6 mois, toutes les saisons, mais faut un petit peu tout revoir à l'OM, parce que c'est vraiment tout désorganisé. Comme l'a dit Paul, il y a Benatia qui vient dézinguer ses joueurs en conférence de presse après le match face à Lorient. Il y a les stages à Marbella, etc., qui sont un peu étranges, on va dire. Donc non, c'est une situation très compliquée pour l'OM. Et moi, franchement, je sais pas si j'arrive à voir les Phocéens prendre 6 points contre Le Havre et contre Nantes. Je suis pas vraiment non plus certain de ça, parce qu'il y a vraiment là, psychologiquement, je pense que, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment en termes de niveau, ils se disent on est en vacances, ou c'est vraiment mentalement c'est compliqué et il y a du stress, il y a de la peur et tout. Si c'est le cas, je pense que c'est vraiment une fin de saison qui va être compliquée pour l'OM et potentiellement une Ligue des Champions qui s'échappe.
C'est vrai que c'est un peu bizarre le cas effectivement de la mentalité des joueurs de l'OM. On a des mecs comme Abdelli quand même qui sont censés être des gros fans de l'OM, qui sont pas censés mettre leur personnalité au-dessus de l'institution. Et pourtant c'est plus ou moins ce qui se passe dans les faits. Donc c'est vrai que ça questionne beaucoup. Surtout que les vacances, c'est impossible de le dire, puisque en fait l'OM pourrait ne pas être qualifié en Coupe d'Europe.
Ouais, c'est ça.
En fait c'est ça qui pourrait se passer, parce que là théoriquement tu finis septième. Lens a pas été chercher la Coupe de France. Peut-être que Nice va aller la chercher. C'est pas garanti, mais ça peut se passer. Et derrière, par exemple, Conference League, Strasbourg va chercher la Conference League. Bon, bah, en fait, t'as pas mal de clubs qualifiés en Coupe d'Europe l'année prochaine, clubs français, c'est très cool, mais pas Marseille. Ouais. Et c'est là où moi j'ai envie de te poser une question, Paul, quand même. Si c'est pas Ligue des Champions, c'est ultra dramatique. Mais est-ce que si c'est Coupe d'Europe, ça atténue la chose ou pas du tout, en fait?
En fait, si c'est pas Ligue des Champions, ce sera dramatique sur le côté financier, où il y a quand même beaucoup d'argent qui a été misé dessus l'année dernière pour cette saison, pour la saison prochaine, par rapport aussi à Greenwood, où tu perds 5% sur le joueur, sur une potentielle revente qui va sûrement se faire vu comment ça se passe en ce moment. Et sur ce point de vue financier, derrière, tu veux au moins en Europa League, et je pense que l'Europa League ou la Conference League sont des compétitions où l'OM ne sera pas non plus mauvais, c'est des compétitions que cette équipe connaît, et je pense que ce sera même préférable, je pense, pour construire quelque chose qu'une Ligue des Champions où tu sais très bien que ça va être très compliqué de faire quelque chose.
Mais ouais, parce que si en fait tu vas en Ligue des Champions là, actuellement, la saison prochaine.
Avec quoi? Avec
tu sais quoi? Tu vas pas performer, tu vas encore limite, entre guillemets, être ridicule aux yeux de l'Europe et de la France. Donc voilà, je pense que c'est plus préférable aussi pour l'OM d'aller chercher une Europa League où c'est plutôt de leur niveau, où vraiment voilà ils vont pouvoir engranger de la confiance, etc., et faire des résultats en Europe, ce qui serait bien parce que ça manque à l'OM.
Et même, je pense, pour construire un projet nouveau, aller en Europe, enfin un nouveau projet, c'est mieux. Un nouveau projet, je pense, c'est mieux de commencer par une compétition plus petite en niveau, pour ensuite la saison d'après aller en Ligue des Champions pour potentiellement performer un peu mieux, quoi.
Parce que je pense pas forcément que Rennes sera plus ridicule que l'OM en Ligue des Champions.
Je pense pas non plus.
Je suis pas certain. Je suis pas certain. Donc, autant laisser
Monaco
la place.
Même.
À... Ouais, Monaco, Lyon. Je pense que voilà.
Et dans ces cas-là, enfin, où est-ce qu'on fait la refonte? C'est ça aussi, parce qu'on discutait du fait que le coach, c'est pas forcément le problème. Alors après, moi, je suis pas fan du coaching d'Abig Bey.
Oui, moi non plus.
Vraiment
mais
très centré sur la communication, etc.
Trop de communication.
Je suis un énorme coach. En fait, bon, bah, on n'a jamais eu la preuve que t'es un énorme coach. Mais bon, ça, c'est même pas fondé, on peut même pas le voir, ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change tout l'organigramme, on l'a déjà fait, ça a pas marché.
Et c'est ça aussi. Mais en même temps, il y a ce truc pour moi de, il y a rien qui marche, donc il faut tout changer. Mais en même temps, on change tout le temps tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a jamais
de continuité.
Voilà, il y a jamais de continuité aussi à l'OM. Donc c'est vraiment ce truc qu'il faut trouver entre trouver les bonnes personnes au bon moment et arriver à garder de la continuité, que ça soit au niveau des joueurs, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont achetés, qui sont revendus un an après, ou qui sont pas utilisés. Donc vraiment, dans l'utilisation des joueurs, déjà, je trouve que c'est pas top. Et vraiment aussi de la continuité dans la direction. Parce que là, on voit forcément Habib Bey, on n'est pas garanti qu'il fasse la saison prochaine. Benatia, hop, c'est déjà dehors. Donc franchement, oui, va falloir trouver de la continuité avec les bons hommes, je pense, pour l'OM.
C'est très compliqué, mais parce que on sait très bien que c'est ça a toujours été comme ça. Ça fait, je sais pas, depuis, comme je te l'ai dit, depuis le titre de champion de France, t'as l'impression que tous les deux ans, il y a un cycle qui se met en place. Tu te dis que tout va bien. Au final, ça part un peu en cacahuète. Tout, t'as l'impression que tout explose. C'est vraiment tout le temps ça. Et au final, ça revient à la même chose. Tu retrouves un nouveau coach. Ça repart en n'importe quoi. Donc là, je pense qu'il faut mieux partir sur un nouveau coach. Garder les joueurs. Certains, faut les vendre comme Balerdi parce que fin de cycle, lui, c'est sûr, il faut qu'il parte. Mais tu refonds avec mieux, des joueurs un peu mieux, on va dire, qui vont pouvoir avoir une mentalité un peu meilleure, je pense. Et là, je pense que tu peux construire quelque chose de plus concret. Sinon, faut repartir comme l'a fait l'OL, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Avec peu de moyens. Par des petits, avec des joueurs jeunes ou avec des joueurs expérimentés en fin de contrat. Et là, tu pourras construire quelque chose.
Après, l'OL l'a vraiment fait avec des pièces rouges.
Oui, mais ça a marché, tu vois.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est parce que, en fait, il y a une refonte de toute la direction de l'OL qui a eu la chance d'avoir Arès. En fait, c'est juste ça, un fonds d'investissement qui avait vraiment les moyens de construire une base solide. Est-ce que c'est vraiment le cas à l'OM? Est-ce que tu peux faire confiance à McCourt? Et est-ce que tu peux faire confiance surtout à la méthode OM qui était le cas déjà avant McCourt de, en fait, on injecte plus d'argent qu'on en fait. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'au bout d'un moment, t'es censé équilibrer tes finances, tu les équilibres jamais. Ça crée un environnement assez toxique finalement, parce que c'est vrai que quand on regarde quand même le mercato d'été dernier de l'OM, enfin moi je me rappelle, je me suis dit mais enfin là ça peut concurrencer le Paris Saint-Germain en fait.
Ah mais carrément. Mais on s'était dit ça aussi. Moi je me rappelle la saison d'avant, c'est-à-dire que la saison d'avant ils font aussi un énorme mercato où ils ramènent des gros noms. Et là on se dit, enfin les deux derniers mercatos, on se dit l'OM ça peut faire grosse saison. Et au final, bon, la saison dernière, c'est pas catastrophique non plus.
Ça finit deuxième.
Oui, ça va. Mais cette saison, tu t'attends pas du tout à voir l'OM sixième quand, si on te dit ça début de saison, tu t'y attends pas. Surtout que, au bout de, je crois que c'est la huitième journée, ils sont leaders de Ligue 1. Et tu te dis ça part super bien. Tu t'attends pas du tout à ça.
Et même en novembre, c'est le match contre Toulouse, tu gagnes le match, t'es premier. Et là, après, depuis ce match-là, tout s'est mal passé. Le trophée des champions, la Ligue des champions. La Coupe de France et le championnat, c'est n'importe quoi ce club.
Ouais, parce que c'est vrai que même dans les profils qui ont été pris, enfin, je me rappelle quand je vois l'OM prendre Vermeeren par exemple, je me dis hyper intelligent en fait, un recrutement à la Dortmund où tu vas chercher un énorme crack, peut-être le plus gros de sa génération. Vermeeren, quand il commence en Ligue des Champions à 16-17 ans, ça marche trop bien. Et puis voilà, c'est vraiment un recrutement qui permettrait d'avoir de la continuité avec des Pachao, etc. Après Pachao, c'est quand même été un investissement questionnable sur le montant que tu mets quand t'es un club comme l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de bien. Donc je sais pas en fait. Même moi, je me dis parce que l'Olympique Lyonnais était quand même sur Abdelli aussi. Ça aurait pu marcher Abdelli à l'Olympique Lyonnais. Peut-être que ça aurait même très très bien marché.
Dans un meilleur environnement, peut-être que Abdelli serait très bon.
Alors qu'il est fan de l'OM, etc. Oui, en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire?
Quand tu vois son niveau à Angers, tu te dis ça peut que marcher à l'OM, ça peut que leur faire du bien. Et finalement, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire.
Au final, il est fantomatique.
C'est terrible.
On a quasiment jamais vu l'Abdelli qu'on a vu à Angers, à Marseille.
Bon, on verra en tout cas si l'Olympique de Marseille arrivera à accrocher une place en Ligue des Champions. C'est mal embarqué, mais la Ligue des Champions continuera sans l'OM. Et elle continue dès ce soir avec les demi-finales d'une compétition où l'OM est éliminée depuis les phases de poule.
Exactement, puisqu'on y est. Hein. C'est les matchs qu'on attend tous toute l'année. Les demi-finales Ligue des Champions débutent ce soir avec une finale avant l'heure entre, on peut le dire, les deux meilleures équipes d'Europe, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Match aller donc au Parc des Princes avant le match retour mercredi prochain à l'Allianz Arena de Munich. L'autre demi-finale opposera l'Atlético de Madrid, tombeur du FC Barcelone face à Arsenal. Match aller à Madrid au Wanda Metropolitano et match retour mardi prochain à l'Emirates. Donc les gars, avant d'avoir un petit peu vos pronostics sur ces doubles confrontations et sur votre potentiel vainqueur final, j'aimerais un peu vous demander, est-ce que actuellement sur cette double confrontation Paris-Bayern, on serait pas sur une des doubles confrontations les plus relevées en termes de niveau de jeu sur ces dernières années?
Oui, c'est fort probable. C'est très très fort probable parce qu'on a une équipe qui est quand même dominante sur toute l'Europe, meilleure attaque, qui est ultra dominante dans son championnat qui est le Bayern, et on a le champion d'Europe en titre qui nous fait plus ou moins la même chose en fait que l'année dernière.
Commence très mal et finalement après mal, et
c'est top. Donc c'est, je trouve en tout cas à mes yeux, une des rencontres les plus impronosticables sur les années récentes en Ligue des Champions. En fait, c'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir. Je trouve que c'est plus facile de parier la semaine prochaine sur le match retour en ayant vu le match de ce soir plutôt que là. Là, c'est impossible.
C'est pareil, c'est du 50-50. Je sais pas ce que t'en penses toi, Paul, mais en termes de niveau, je trouve vraiment que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une affiche aussi impronosticable comme tu le dis et aussi relevée en termes de niveau de jeu aussi.
tout à fait d'accord avec vous. Un 50-50 est vraiment le cas pour ce match-là. Sachant que les deux équipes arrivent avec leur force en pleine bourre, ils sont quasiment champions pour les deux équipes. Donc non, c'est un match très très impronosticable et je pense qu'on va avoir, on va assister encore à un très grand match de Ligue des Champions entre ces deux équipes.
Parce que on a vraiment évidemment beaucoup de qualité dans les deux effectifs et on va avoir énormément de gros duels entre par exemple Vitinha, Kimmich au milieu de terrain, un duel très attendu aussi entre potentiellement le meilleur défenseur central et un des meilleurs numéro 9 de la planète entre Pacho et Kane, aussi le duel entre Olise et Nuno Mendes ou encore Upamecano Dembélé. Qu'est-ce que seront pour vous les clés de ce match, Matteo, par exemple, toi?
Alors pour moi, la clé de la rencontre, elle va se passer sur le côté droit. Sur le côté droit, en fait, tout simplement parce que on connaît le profil de Nuno Mendes, on sait ce qu'il fait pendant les matchs, il monte très très haut, etc. Donc forcément, ça va laisser aussi de la place pour Olise, mais pour n'importe quel autre joueur, en fait, parce que je sais que, enfin voilà, Olise aime bien ne pas rester sur son aile droit, dézoné, donc il y a des joueurs aussi qui remplissent ce côté-là. Et puis du côté du Bayern, Stanisic, qui est titulaire, face à Kvaratskhelia. Bon, on va voir ce qui se passera, mais c'est vrai que c'est assez ouvert sur ce côté droit et je pense que c'est de là que va venir la plupart des opportunités des deux équipes.
Et toi, Paul, qu'est-ce que t'en penses? Que tu rejoins Matteo?
Je rejoins totalement Matteo, je peux rien dire de plus, c'était parfait, il a tout vu.
C'est sûr que
le milieu de terrain aussi, je pense que le combat Vitinha, Kimmich et même Musiala, Joao, tout ce combat-là va aussi être assez important.
C'est sûr. Est-ce que vous avez un petit pronostic peut-être?
C'est dur. Hein.
C'est dur, forcément, c'est pour ça que je vous demande.
Je pense que Paris va gagner 1-0.
Okay. Et toi, Paul?
2-1, pardon.
Moi, je pense à un match nul, 2-2, dans un beau match.
Ouais, je te rejoins, moi, je pense, Matteo, plutôt une victoire parisienne courte, mais ça va jouer vraiment à des détails, je pense, cette double confrontation. Ouais.
Et on en a une autre,
On a une autre, évidemment. Est-ce que là, peut-être un petit peu plus pronosticable, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous voyez sur cette double confrontation? Déjà, on peut parler peut-être du match aller à Madrid.
Bah, c'est assez, moi je trouve ça aussi un pronostic. Bah après, c'est tout ce qu'on dit à chaque fois, les demi-finales de Ligue des
Champions,
c'est un pronostic.
Ouais.
Mais, c'est que là, l'Atlético est quand même dans une posture qui est très avantageuse. Qui est très très avantageuse parce que Arsenal est pas en confiance. Eux, ils ont éliminé l'un des favoris de leur phase à eux, qui était le Barça. Ils sont forcément en pleine période de confiance et puis on a des joueurs qui ont plus rien à perdre aussi en fait dans leur carrière. Je veux dire, Griezmann il part à Orlando après, il nous fait une fin de saison qui est absolument folle. Julian Alvarez, c'est quand même un joueur, je pense que autour de la table on kiffe tous.
Incroyable.
Donc je me dis, si mettons par exemple Arsenal se prend un rouge à la 30e d'un Saliba ou d'un Gabriel qui fait qu'en fait au match retour l'un des deux n'est pas là.
Bon, c'est sûr que s'ils perdent un des deux, je pense que ça peut beaucoup jouer, que ça soit à l'aller ou au retour. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Paul.
Moi, je pense que cette équipe de l'Atlético a plus d'expérience à ce niveau-là qu'Arsenal, même si Arsenal, ça fait quand même deux saisons, ça fait quart de finale, demi-finale. C'est une équipe qui prend de l'expérience, mais qui est encore assez jeune, alors que l'Atlético, c'est des joueurs avec pas mal d'expérience. Griezmann, tu l'as dit, il a plus rien à perdre, mais c'est un mec avec une expérience, ça fait 12 ans qu'il est à ce niveau-là, c'est incroyable. Donc, non, pour moi, cette équipe de l'Atlético, sur une double confrontation comme celle-ci, a plus d'expérience, mais on sait jamais avec Arsenal, même s'ils sont dans une mauvaise phase actuellement. On peut se dire que dans un match, tout peut aller très vite, comme l'a dit Matteo, un rouge même de chaque côté, ça peut aller très vite. Donc non, je pense que c'est impronosticable aussi, et ça va être encore un match assez, assez fermé.
Bah après, le truc, c'est aussi, je pense que ça va beaucoup se jouer mentalement, parce que on sait qu'il y a un peu cette mentalité de choker du côté d'Arsenal ces dernières saisons. Et là, quand on voit que potentiellement, là, tu vois City revenir à ta hauteur en championnat, tu vois que tu perds la FA Cup, tu vois que tu perds, tu te fais sortir par Southampton, si je dis pas de bêtises.
C'est bien ça, ouais.
Tu vois que tu perds le Community Shield et que là, La Carabao, pardon. Et que tu vois que là, t'arrives face à Atlético qui vient de sortir le Barça, qui est en pleine bourre, etc. Forcément, mentalement, t'es pas au top de ta forme, comme tu l'as dit, Matteo. Donc je pense que psychologiquement, chez les joueurs d'Arsenal, ça doit trottiner dans la tête.
Après, ce qui peut jouer aussi, c'est le match qui s'est déroulé en phase de ligue. Même si, bon, souvent les matchs de phase de ligue n'ont pas vraiment
différent.
D'intérêt sur la suite de la compétition. Ouais. Mais ce match-là, quand même, montre quelque chose. C'est qu'Arsenal, enfin, quand ils mettent 4-0, quand même, c'est pas rien. Et je pense que Arteta va appuyer dessus pour motiver ses troupes.
Après, mentalement et même dans le jeu, je pense que c'est pas du tout la même version d'Arsenal.
Des deux équipes, ouais, c'est sûr. Même de l'Atlético, j'ai envie de te dire.
C'est sûr.
On verra ce qui se passera. J'ai quand même le 11 sous les yeux, le 11 de l'Atlético, avec donc Sorloth, Griezmann en pointe, Coquet qui est titulaire, quand même aussi. C'est vrai que c'est pas une équipe. En fait, je suis en train de me dire parce que même l'anglais en défense centrale, on a quoi? On a Nico Gonzalez. Enfin, on a Gonzalez. Je sais plus si c'est Nico Gonzalez, celui qui joue à la Juve.
Oui, c'est lui. Il est en prêt. Ouais. Il est en prêt.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a un autre Nico Gonzalez dans pour ça à chaque fois.
Non, et puis Simeone à droite, donc c'est quand même pas une équipe Ligue des Champions pure, mais bon, on verra ce qui se passera face à cette équipe d'Arsenal, pas en confiance, avec un Arteta qui pourrait finir en dépression à la fin de la saison. On passe au cyclisme.
Hop, oui, tout à fait. La semaine dernière se déroulaient les classiques ardennaises de cette saison 2026. Après une mise en bouche aux Pays-Bas avec l'Amstel Gold Race remportée par Remco Evenepoel, la Flèche Wallonne avait lieu mercredi. Une classique reconnue pour son célèbre mur de huit, véritable juge de paix de la victoire finale. Cette année, en l'absence de Remco Evenepoel et de Tadej Pogacar, les Français avaient plusieurs cartes à jouer. Kevin Vauclin, double dauphin des deux dernières éditions, mais aussi Benoît Cosnefroy, Lenny Martinez, Paul Sexas ou encore Romain Grégoire. Et c'est le plus jeune de cette liste qui s'est illustré. À seulement 19 ans, Paul Sexas a dompté les pentes du terrible mur de huit. Il a su gérer son effort avant de s'envoler dans les derniers mètres. Il devient ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de la classique ardennaise, un début de rêve pour le Haut-Savoyard. Chez les femmes, c'est Demi Vollering qui s'est imposée au sprint devant Puck Peeters. Dimanche, les coureurs avaient rendez-vous avec la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Une startlist XXL marquée par la présence de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pitcock, ainsi que nos Français. Au terme d'une bataille magistrale, c'est le champion du monde Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Paul Sexas. Après une attaque tranchante dans la redoute, le Slovène a dû accélérer de nouveau dans la roche au faucon pour se défaire définitivement du Français. Poggi remporte ainsi son 13e monument, tandis que Paul Sexas prend date avec l'histoire. Du côté des femmes, c'est à nouveau Demi Vollering qui s'était imposé devant Puck Peeters. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine de cyclisme, messieurs, et je crois un peu quand même. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ces courses?
Moi, j'ai suivi le Liège-Bastogne-Liège, forcément avec cette ascension de la redoute exceptionnelle de la part de Paul Sexas qui nous a vraiment impressionné de façon positive. Non, franchement, ça montre vraiment, on pouvait se poser des questions. Le premier affrontement vraiment où Paul Sexas pouvait potentiellement concurrencer avec Pogacar, et il l'a fait pendant très longtemps. Forcément, au bout d'un moment, Poggi est au-dessus, et au fur et à mesure de la course, il allait envoyer, et Paul Sexas allait forcément lâcher. Mais non, franchement, je suis très très optimiste. Voilà, il fallait cette course-là, voir comment Paul Sexas pourrait se frotter avec les plus grands, et le plus grand en l'occurrence, et on n'a pas été déçus. Donc j'étais très 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 heureux, et c'était une super belle course, ce Liège-Bastogne-Liège.
Ouais, c'était un moment d'histoire, hein, même franchement, c'est quand même il a 19 ans, Paul Sexas.
C'est ça qui est fou.
Se dire à 19 ans, Pogacar, qui était déjà en train de battre plein de records de précocité quand il arrive sur le Tour à 21 ans, etc. À 19 ans, il est pas professionnel, hein, Pogacar, il est au fin fond de la Slovénie, il commence à faire ses gammes, il se fait un peu repérer par UAE. Voilà, Paul Sexas, il est là, il concurrence peut-être à un mec qui va devenir le meilleur coureur de l'histoire, peut-être Pogacar, s'il
s'arrête bien
très tard. Mais enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire face à un Vingegaard. Maintenant, moi, cette course, ça me fait dire quelque chose. C'est quand même que Pogacar lui a mis 35-40 secondes.
45 secondes après la roche au faucon.
Donc, je pense que Paul Sexas n'est pas encore prêt pour vraiment aller concurrencer sur un grand tour Tadej Pogacar. Moi, je trouve que cette course-là, elle est super intéressante parce que ça conforte le fait qu'en fait, Paul Sexas, il va rouler sur le cyclisme mondial plus tard. Mais qu'aujourd'hui, on n'est pas censé le voir sur le Tour de France. Il faudrait qu'on le voit sur le Giro, sur la Vuelta, dès, je pense, cette année, quand même.
Je pense, oui. Mais c'est mieux pour lui, pour faire ses gammes, pour découvrir, comme l'a fait, tu l'as dit, Pogacar. Quand il arrivait chez UAE, ils l'ont pas envoyé directement sur le Tour, ils l'ont envoyé sur la Vuelta, où il fait quand même troisième, il remporte trois étapes. Donc non, je pense que, comme tu l'as dit, c'est plus intéressant pour un coureur comme Sexas, jeune, découvrir un grand Tour, et pas directement le Tour de France, où il y a une pression énorme en tant que Français. Une pépite comme lui, ça serait beaucoup.
C'est ce que UAE aussi a fait avec Isaac Del Toro l'année dernière sur le Giro. Bon, bah forcément lui, ça a commencé un peu à, enfin ça pèse sur son reste de carrière en tout cas pour l'instant, parce qu'il est quand même un peu moins performant depuis le Giro et le Giro perdu à cause d'une faute tactique de sa part, hein, presque, hein, de l'équipe du UAE. Donc, mais c'est vrai que je pense que ce serait le meilleur choix. Faut pas oublier quand même que c'est son deuxième monument à Paul Sexas. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Deuxième monument, il met une minute à Evenepoel. Enfin, moi, je trouve ça complètement aberrant. Et je suis très, très content d'avoir Paul Sexas dans le cyclisme français. C'est peut-être le mec qu'on attendait depuis longtemps, encore plus qu'un Julien Alaphilippe qui nous a quand même fait rêver. Mais ouais, il y a de quoi être optimiste, hein, je trouve.
Là, quand tu regardes quand même, enfin, pour sortir un petit peu du cyclisme, quand tu regardes un petit peu tous les sports que tu vois, il y a quand même une grosse pépite par chaque sport quasiment. Franchement, le sport français est bien verni pour les prochaines années. Hein.
Il se porte bien, comme tu dis. Mais tu as parlé d'Evenepoel, j'avais envie de revenir sur lui. C'est quand même avant la course, il nous parle d'un Sexas qui va avoir du mal à les suivre, lui et Pogacar. Ça pour au final, lui,
lance
une tactique, mais même sa tactique au début de course à partir de partir, groupe, ouais. Au final, pour se faire rattraper et derrière, ne pas suivre l'attaque de Pogacar et de Sexas. Ça montre aussi les limites un peu d'Evenepoel, je trouve, ces derniers temps sur les courses comme ça, comme celle-ci.
Bah, grosse erreur tactique, hein, surtout de Evenepoel et puis de Labora, parce que, enfin, c'est complètement, ouais, en vrai, c'est assez débile, parce que t'as quand même Pogacar, t'as même Paul Sexas, des mecs qui peuvent, si t'accélères la course, te déposer, hein, littéralement, et on l'a vu, ils ont fait le record à plus de 15 minutes d'écart, je crois, du record, qui avait été fait déjà sur Liège-Bastogne-Liège, donc, t'essaies dès le début de créer une cassure, de te mettre dans un groupe qui fait 4 minutes 30 d'avance au pic, au maximum. Et derrière, quand ça revient, bah forcément, tu peux plus suivre, en fait. Et les deux ovnis qui sont devant toi partent pleine balle et tu peux pas les rattraper. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est juste essayer de faire une sorte de course arrêtée où là, toi, tu peux avoir quelque chose à jouer, un côté puncher quand même d'Evenepoel qui est très bon de ce côté-là. Donc, ça aurait pu le faire, mais la tactique a pas été bonne au niveau de Labora et c'est totalement de sa faute. Après, il aurait pas pu, je pense, de toute façon, rivaliser avec les deux qui étaient beaucoup trop dans cette journée-là.
Au-dessus, ouais. Voilà. Du coup, côté cyclisme, rien à ajouter.
Rien à ajouter, mais quand même une belle semaine.
Ah ouais, une très belle semaine. Et puis,
c'est un très beau mois qui s'annonce. Hein,
et le Giro qui arrive là, ça va être super.
Ouais. Et puis même le Tour des Pays Basques, hein, je sais plus, je crois pas qu'on en avait parlé du Tour des Pays Basques, mais. Totalement fou, voilà. On va y revenir longuement de toute façon sur Paul Sexas. On fera des émissions entières sur le cyclisme, notamment cet été. On part en tennis maintenant, Romain.
Oui, on va parler du Masters 1000 de Madrid qui a débuté mercredi. À Madrid, évidemment, c'est de la terre battue puisque le mois d'avril a laissé place à la surface sur dur pour accueillir désormais la surface de terre battue qui s'achèvera notamment ou qui accueillera notamment Roland Garros dans les prochaines semaines. Un des deux monstres du tennis, Carlos Alcaraz, a d'ailleurs déclaré forfait pour le tournoi de Madrid, laissant ainsi le chemin tout tracé jusqu'à la victoire. On l'imagine donc pour l'autre monstre, Yannick Sinner. Aujourd'hui, ont débuté les huitièmes de finale avec un seul Français rescapé chez les hommes. Parmi les 11 qui étaient engagés au premier tour, seuls 6 d'entre eux ont réussi à passer le premier tour et seulement 3 étaient au rendez-vous du troisième tour avec Arthur Fils vainqueur face à Emilio Nava en 2-7, Arthur Rinderknecht qui a abandonné face à Kopriva et enfin Terence Atman hier qui a longtemps lutté face à Alexander Zverev, tête de série numéro 2, pour finalement s'incliner 6-3-7-6. Notre dernier Français qui n'est autre donc que Arthur Fils avait rendez-vous ce matin à 11h avec Thomas Martin Echeverri, le terrien, et le Français s'est imposé tranquillement en 2-7, 6-3, 6-4. À noter également du côté des hommes, le retour en forme de Stefanos Tsitsipas, en grande difficulté en ce début de saison avec un enchaînement de défaites incroyable, mais qui là retrouve son jeu puisque le Grec était tout comme Arthur Fils présent au rendez-vous des huitièmes de finale et s'est imposé, il s'est fait battre par Casper Ruud, mais dans un match assez stratosphérique avec 3 tie-breaks. Il avait gagné le premier et il a perdu les deux suivants. On peut aussi souligner évidemment l'émergence confirmée du jeune crack espagnol Rafael Rodar, qui confirme depuis plusieurs semaines et encore plus cette semaine à Madrid qu'il a tout d'un grand, en s'imposant notamment de la plus belle des manières face à Alex de Minaur au deuxième tour 6-3-6-1, João Fonseca au troisième tour en 3-7 et Kopriva en 2-7 cet après-midi 7-5-6-0 lors de son huitième de finale pour valider sa qualif en quart de finale. Du côté des femmes, on a entamé pour elles les quarts de finale et aucune Française encore en lice, puisque seule Léolia Jean-Jean était sortie du premier tour, sèchement battue au second 6-3-6-0 par Coco Gauff. De son côté, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka a désormais un boulevard pour aller s'offrir le titre, puisque cette même Coco Gauff, numéro 3 mondiale, et Elena Rybakina, numéro 2 mondiale, se sont inclinées lors des huitièmes de finale et seule une membre du top 10, autre que Sabalenka, est encore en lice, en la personne de la jeune russe qui fêtera ses 19 ans demain, Mira Andreeva. Sortons désormais un petit peu de Madrid et allons vers le tournoi que l'on attend tous, évidemment Roland Garros, et cette info choc qui nous est parvenue la semaine dernière avec le forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre, non pas seulement pour le tournoi de Madrid, mais pour l'intégralité de la saison de terre battue, y compris donc le Grand Chelem parisien, dû à une blessure au poignet. ça pose une question donc existentielle et j'aimerais avoir votre avis là-dessus les gars, puisque le forfait de Carlitos, est-ce qu'il serait plutôt bénéfique ou non pour le tournoi? Évidemment on savait que sauf catastrophe on allait avoir une finale Sinner Alcaraz, mais là avec le forfait de l'Espagnol, on a évidemment Sinner qui est immense favori. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas trop de suspense. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi plus d'opportunités pour des outsiders en cas de bon tirage. Je pense évidemment à Arthur Fils ou à Rodar que j'ai donc évoqué. Mais aussi à des joueurs plus expérimentés comme Alexander Zverev ou Lorenzo Musetti qui est très fort sur terre battue. Donc qu'est-ce qu'on en pense les gars? Est-ce que on se dit plutôt que ça tue encore plus le suspense ou alors ça va permettre à certains outsiders de jouer leur carte à fond?
Moi, j'ai envie de dire un peu des deux, parce que à la fois ça tue un peu, parce qu'on sait très bien que Sinner, si dans une partie tableau assez assez intéressante pour sa part, il risque d'aller en finale sans trop de problèmes et sûrement on se retrouve en finale un joueur qui aura eu beaucoup plus de difficultés que lui à se retrouver en finale, donc il aura plus de facilité. Mais en même temps, comme tu l'as dit, ça va permettre à des jeunes joueurs comme Rodar, comme Fils, comme Fonseca de briller, de pouvoir faire des, je pense, une bonne partie tableau s'ils sont dans la bonne partie tableau, pas celle de Sinner, je parle. Donc pour moi, c'est un peu des deux. J'ai envie d'espérer que même Zverev nous fasse un gros tournoi, potentiellement enfin gagner un grand chelem, parce que c'est une opportunité qu'il n'aura pas deux fois, je pense, sur les prochaines années. Donc voilà.
C'est sûr. Et puis, comme on parle d'Arthur Fils, vraiment dans une forme, un peu dans la forme de sa vie, hein, alors que voilà, il était un petit peu en difficulté sur dur lors de son retour. Là, il enchaîne avec, j'en ai pas parlé, mais son titre il y a une semaine à Barcelone, son ATP 500 après le forfait d'Alcaraz. Donc, qu'est-ce que t'en penses toi, Mathéo, sur ça?
Sur Arthur Fils, bah effectivement, c'est très bien. Dans tous les cas, on sait qu'il a toujours été très très régulier. Arthur Fils, hein, c'était quand même une des marques, notamment de son année passée l'année dernière. Là, il revient avec cette forme-là. Il est arrivé à Dubaï, ça a tout de suite marché pour lui. Effectivement, là, il est dans une forme olympienne. C'est très bien aussi que effectivement Carlos Alcaraz soit pas là, parce que ça va nous donner beaucoup plus de confrontations à des niveaux plus ou moins égaux, quand même. Donc ça c'est très très bien. Et puis peut-être, alors après moi je vois mal Sinner
ne pas gagner
en fait. Le truc voilà, c'est que Sinner c'est tellement un rouleau compresseur
dès et que puis c'est son occasion, parce qu'on sait que voilà, à Roland il l'a pas encore gagné, donc là il se dit c'est maintenant, c'est tout droit, c'est ouvert pour moi.
Bah, c'est le seul tournoi qui lui manque en plus, un grand chelem.
Donc on verra bien ce qui se passera, mais je pense que moi je me fais pas trop d'illusions sur le vainqueur final de Roland Garros. Après on verra, hein, sur les semaines qui arrivent, peut-être que voilà, des concurrents se dégageront, mais je pense pas. Par contre, sur le fait qu'on aura un beau Roland Garros durant les phases éliminatoires, ça sera assuré, ça c'est sûr et certain.
On vérifiera ça. Dans tous les cas, Roland Garros ça commence d'ici 2-3 semaines, donc on a hâte de suivre ça. Et puis voilà, ça va nous faire beaucoup plus de suspense que les autres années, ça c'est sûr.
Ouais, mais potentiellement une moins belle finale du coup que l'année dernière.
Ouais, c'est vrai. À part si on a Arthur Fils, on est sûr que on sera.
Ouais. Et puis bon, la blessure d'Alcaraz, on peut aussi avoir très peur qu'elle soit jusqu'à Wimbledon et que malheureusement il le loupe aussi. Voilà, donc ça risque d'être plus compliqué pour lui.
Parce que là, du coup, il a fait l'impasse sur Barcelone, sur Madrid, et là, ça laisse vraiment Sinner déjà qu'il enchaînait quand Alcaraz il était pas là, il a enchaîné tout depuis le début de saison. Alors là, s'il est pas non plus à Wimbledon, il va tout enchaîner jusqu'à moi je sais pas jusqu'à quand va durer la blessure d'Alcaraz, mais c'est sûr que ça peut être très très long.
On verra bien ce qui se passera. En tout cas pour Roland Garros, moi je dis tout, mais pas Zverev. on va passer à la MotoGP maintenant avec le Grand Prix d'Espagne qui nous a offert deux scénarios diamétralement opposés ce week-end sur le circuit de Jerez, avec une course sprint dictée par une météo qui s'est dégradée tour après tour et un Grand Prix assez tranquille finalement sous un soleil brûlant. Commençons par la journée de samedi marquée par une course sprint assez chaotique, il faut le dire. L'arrivée d'une forte averse à la mi-course a contraint les pilotes à changer de machine. C'est Marc Marquez qui est sorti vainqueur au terme d'un scénario assez improbable, hein, puisque le pilote espagnol a chuté au moment où la pluie s'intensifiait, mais cette erreur lui a ironiquement permis de couper par l'herbe pour rentrer au stand au moment optimal, pendant que les leaders, hein, notamment Fermín Aldeguer, perdaient un temps précieux en effectuant un tour supplémentaire sous le déluge. Marquez a repris la piste pour s'imposer devant Pecco Bagnaia et Fabio Di Gianantonio. Une victoire non sans polémique, hein, puisque rentrer au stand sans passer par la voie dédiée est normalement interdit, mais soit. C'est dans ces conditions changeantes que les Français ont tiré quant à eux leur épingle du jeu. On a retrouvé un Fabio Quartararo dans le top 10, lui qui s'est accaparé la 7e place, juste devant Johan Zarco, 8e. Dimanche, le retour d'une piste sèche donc et ensoleillée a souri à un autre Marquez, Alex Marquez, sur sa Ducati de l'équipe Gresini, donc qui a remporté le Grand Prix pour la 2e année consécutive à Jerez. Après avoir pris les commandes dès le premier tour, il a profité de la chute de son frère Marc au 2e pour s'échapper définitivement. Derrière lui, Marco Bezzecchi a assuré une solide 2e place, confortant ainsi son avance en tête du classement général du championnat avec 101 points. Fabio Di Gianantonio complète le podium, a noté le 0 pointé de l'équipe officielle Ducati, donc marqué par l'abandon pour problème mécanique de Francesco Bagnaia. Pour le clan tricolore, l'attention s'est portée sur la course de Johan Zarco, parti en 2e position sur la grille. Le pilote Honda a longtemps lutté dans le top 5, tenant tête au Aprilia et surtout au KTM. S'il a finalement reculé à la 7e place dans les derniers tours en raison d'une forte dégradation de son pneu arrière, il signe là son meilleur résultat en Grand Prix depuis l'été dernier. Cette performance donc tombe à point nommé pour le Français. Dans 2 semaines, le paddock posera ses valises au Mans pour le Grand Prix de France. Zarco, vainqueur sur ce même circuit sartois la saison passée, arrivera avec une confiance retrouvée et une Honda qu'il maîtrise de mieux en mieux. Comme il l'a lui-même souligné ce week-end, il sait qu'il pourra compter sur un public acquis à sa cause pour tenter de jouer à nouveau les premiers rôles. Voilà pour la MotoGP. On va se quitter un petit peu plus tôt, puisqu'on doit aller regarder forcément le grand match de Ligue des Champions. On a donné nos pronostics tout à l'heure, on les redonne peut-être quand même pour la fin d'émission. Moi j'avais dit 2-1, Robin toi aussi
2-1 également, oui.
Et toi Paul, je sais plus.
Match nul de 2.
Match nul de 2, on verra ce qui se passera dans tous les cas. Donc aucun Bayern vainqueur ce soir. Voilà, on verra quel en est l'état de ces pronostics la semaine prochaine. On vous laisse donc, et puis on vous souhaite une excellente semaine et un excellent match ce soir.
Out of shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
look here, brother, who you dabbing with that cosmic debris?
Now what kind of a guru are you anyway? You can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
I got the crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I got the newspaper around my head, so I looked like I was beat. I said some mumble. He couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future there, as long as he was hanging around. I said,
the price of meat has just gone up, and your old lady has just gone down.
Look here, brother, who you jumping with that cosmic debris?
Now is that a real poncho, or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher, so don't you waste your time on me.